France Bleu Creuse, le dossier du jour, Josiane Perron.
Bonjour à tous et à toutes. Chaque année, nous en parlons, chaque année, il fait aussi des victimes. Lui, c'est le monoxyde de carbone. Pour que cela ne vous arrive pas, notamment en cette période de chauffage, les pompiers de la Creuse sont venus à votre rencontre ce matin, en direct avec nous. L'adjudante-chef Nadia Joly, préventionniste, le pharmacien hors classe Jean-Michel Noailles, pharmacien et conseiller technique départemental en risque chimique et biologique. Et bien sûr, vous aussi, vous pouvez poser vos questions à nos pompiers, nous faire partager votre vécu, si vous avez eu affaire au monoxyde de carbone, ce qu'il faut faire, ne pas faire, c'est à ce numéro.
05 55 52 37 38.
Et il n'y a pas que nos deux invités. Non, il y a d'autres mondes, mais beaucoup plus discrets. Bonjour, capitaine.
Bonjour, Josiane. Comment ça va ?
Eh bien, ça va bien. On va saluer le colonel également, parce qu'il est à l'écoute, là, ce matin.
Ah oui, il nous envoie des petits SMS.
D'accord.
Voilà, donc bonjour, mon colonel.
Bon, vous restez concentré quand même, hein. On oublie un petit peu les SMS. Tout d'abord, apprenons à bien connaître ce dont on parle, le monoxyde de carbone. Jean-Michel Noailles, le monoxyde de carbone, qu'est-ce que c'est finalement ?
Alors, c'est un gaz qui est incolore, inodore. Donc, il n'est pas détectable par l'homme. Et donc, la personne, lorsqu'elle sera exposée, n'aura aucun moyen de le ressentir. Ça sera les signes cliniques, les symptômes qui vont apparaître, qui vont l'alerter sur cette intoxication possible.
Alors, comment il se fabrique, ce monoxyde ?
Alors, le monoxyde de carbone est produit par tout appareil de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant sur une énergie fossile. Donc, ça sera sur du fioul, du charbon, du gaz ou du bois.
D'accord.
Et donc, lorsque la combustion est incomplète, il y a un petit peu de monoxyde de carbone qui est produit. Plus l'appareil fonctionnera mal, plus potentiellement il y aura une production importante de monoxyde de carbone. Et s'il fonctionne mal, il est aussi possible que ce monoxyde de carbone se disperse dans l'habitation.
Alors, comme vous nous l'avez dit, le plus gros danger, c'est qu'il n'a pas d'odeur, qu'on ne le voit pas.
Non, il est indétectable par les sens de l'homme. Et donc, c'est quelque chose qui peut être grave parce que la personne, lorsqu'elle va s'intoxiquer, il y aura une altération de sa capacité à analyser la situation, une altération de sa capacité à quitter les lieux. Et si elle ne fait pas le lien entre un défaut de fonctionnement de son appareil de chauffage et les signes qui apparaissent, qui ne sont pas spécifiques. En plus, l'inconvénient de l'intoxication au monoxyde de carbone, c'est que les signes sont peu spécifiques. Ça sera un mal de tête, des nausées, voire des vomissements.
Ouais, donc
des
choses assez, autre chose.
Des signes assez banals au quotidien, quoi. Et donc, et ça peut aller donc jusqu'à une perte de connaissance. Et donc, la personne ne va pas quitter les lieux dans ce cas-là. Et si elle reste dans un local avec une concentration importante d'oxyde de carbone, l'intoxication va s'aggraver et ça peut conduire à la mort. Le monoxyde de carbone est la première cause d'intoxication mortelle en France.
Oui, c'est quand même assez conséquent. Adjudante-chef Nadia Joly, préventionniste. Alors tout d'abord, quel est votre rôle à vous ? Rapprochez-vous bien de votre micro.
Alors, je
faut faire comme avec les glaces en été, il faut être assez près.
Oh.
Mais nous ne sommes pas en été.
Tout à fait. Alors, je suis au service prévention depuis peu au département de la Creuse, puisque je viens d'arriver depuis le mois d'octobre. Je suis en charge de toutes ces commissions de sécurité, donc dans les établissements qui reçoivent du public. Et j'étudie les permis de construire, les visites de réception que nous effectuons au sein des différents établissements, afin effectivement de contrôler si toutes les mesures de sécurité sont prises pour que le public qui se rend dans ces établissements, les magasins Leclerc, les hôpitaux, les différents types d'établissements sont en sécurité et éventuellement nous conseillons, nous avons aussi un rôle pédagogique pour éviter de ne pas caler les portes, etc. etc. Voilà effectivement ce que je fais au sein du 10-23 actuellement.
Alors à propos de conseils, je pense que c'est ce que vient vous demander Marie-Joëlle, bonjour.
Bonjour à vous deux, à vous, je sais, trois.
On est un, deux, trois, quatre, on est cinq.
Là, il y a du monde dans le studio alors. Hein. Bon, bonne année, bonne santé à tous.
Bonne année. Merci. À vous, Marie-Joëlle.
Merci.
Alors moi, je veux d'abord félicitations parce que les pompiers, je leur tire mon chapeau. C'est des hommes formidables. Ensuite, je voudrais savoir pour le système d'alarme pour le feu, le petit boîtier.
Le détecteur.
Voilà, c'est ça.
Et qu'est-ce que vous voulez savoir alors, si c'est obligatoire?
Voilà, vous avez tout compris.
D'accord. Didier Joigny, c'est obligatoire?
Alors, on l'appelle le DAF.
Hein,
donc c'est le détecteur autonome avertisseur de fumée.
Oh là.
Alors, il est obligatoire depuis Mars 2015.
Oui.
Et à la charge du propriétaire.
D'accord.
Actuellement, si vous avez des appartements en location, vous devez soit en acheter un et le donner à votre locataire.
Locataire.
Okay.
L'installation. L'installation se fait très facilement. Il n'y a pas besoin de d'appeler un professionnel. Alors, il faut savoir que ce détecteur est très important parce que 7 incendies sur 10 se déclenchent la nuit.
Ouais,
d'accord. Ça cause à peu près entre, enfin, aux alentours de 400 décès hein, par an. Donc, ce détecteur va diminuer d'année en année le nombre de décès. Hein, parce que la nuit, ben, comme tout le monde dort, un peu qui se déclare,
les gens mieux
s'intoxiquent, hein, comme mon collègue me disait tout à l'heure, s'intoxiquent par les fumées, hein, puisque 80% des décès sont dus par les fumées.
Okay,
voilà, il faut le savoir.
Ensuite, pour le feu de cheminée, est-ce que le ramonage est obligatoire tous les ans? Oui, je vous allais me dire.
Qui répond? Oui, enfin, on va vous dire oui spontanément, peut-être Jean-Michel Noailles. Oui, vaut mieux de toute façon.
Oui, ça fait partie
Bonjour,
des.
Bonjour, monsieur Jean-Michel.
Bonjour, madame. Ça fait partie des consignes qui permettent de garantir l'incendie qui pourrait se manifester dans son habitation. Et c'est obligatoire, oui. En cas malheureusement de sinistre, je crois bien que les assurances demandent une attestation de ramonage.
Alors, je voulais vous demander, est-ce que moi, je fais le ramonage de ma cheminée avec une bûche?
Et malheureusement. Je suis assez réservé sur un ramonage mécanique, malheureusement, enfin, ou heureusement, par un professionnel garantit quand même un contrôle que le conduit est bien désobstrué de tout agrégat de suie, et en plus va contrôler l'étanchéité du conduit. Il y a quand même, pour revenir sur cette intoxication au dioxyde de carbone, 50% des situations accidentelles qui sont liées à un défaut au niveau du conduit d'évacuation des gaz de combustion. Donc, la notion de la bonne désobstruction du conduit d'évacuation et de son bon entretien est un élément de sécurité très important.
Adjudant de chef, attendez, alors, Marie-Joëlle.
Alors moi, je ne comprends pas parce que mon assureur accepte sur la bûche. Vous envoyez, il y a un contrôle et vous envoyez ça à votre assureur. Comme quoi, ça marche de ramoner votre cheminée avec une bûche.
Je pense, Marie-Joëlle, que le principal, effectivement, c'est de faire ça par un technicien compétent, donc effectivement des gens professionnels qui sont dus à ça. Je voulais rebondir effectivement sur les DAF qu'on vous demande obligatoirement de mettre ça dans vos logements. Voilà, il faut savoir qu'effectivement ce détecteur c'est un moyen de prévention. Donc l'intérêt effectivement des DAF que nous allons mettre au sein de nos habitations, c'est qu'il va se comporter comme un chien de garde, c'est-à-dire qu'il va être capable de détecter la présence de fumée. Et après, d'autre part, d'attirer votre attention, puisque, comme disait mon collègue, le plus souvent, effectivement, c'est la nuit, lorsque nous dormons, on ne voit rien, on n'entend rien, et on ne sait pas ce qui se passe. Donc ce petit détecteur qui va être mis en place au sein de nos logements, comme vous avez mis, et moi-même également, et ben, en fait... pardon ?
Heureusement.
Oui, je vous rassure, on l'a mis également, voilà. Donc en fait, effectivement, ce détecteur, il va être capable de détecter la moindre fumée au sein de l'habitation et va nous attirer par un petit signal sonore, effectivement, la sirène, effectivement, la présence de fumée et ainsi pouvoir, effectivement, de quitter rapidement les lieux et de se mettre à l'abri. Voilà, je vais rebondir, effectivement.
Jean-Michel Noailles, vous souhaitiez ajouter autre chose?
Si vous permettez un petit message complémentaire, c'est obligatoire depuis 2015 et je suis en train de penser que ça va faire donc 4 à 5 ans que ces appareils sont installés. C'est la durée de vie moyenne d'une pile lithium, sachant qu'une pile alcaline, la durée de vie sera de 1 à 2 ans. Donc d'un point de vue général, pour toutes les personnes qui l'ont bien installé, il est quand même judicieux de vérifier le bon fonctionnement de cet appareil. Il est recommandé, je crois bien, un contrôle mensuel. Cependant, s'il faudra pareil, ça fait longtemps qu'il est installé, vérifier les piles et les changer pourrait être un bon moyen de garantir l'efficacité de ce dispositif.
Il n'y a pas de problème, monsieur, je le sais.
Eh ben, c'est très bien, Marie-Joëlle. Nous allons vous souhaiter une très belle journée.
Merci à vous également et bravo encore aux pompiers.
À très bientôt, Marie-Joëlle. Monoxyde de carbone, détecteur de fumée. Vous aussi, vous posez des questions. Eh bien, n'hésitez pas, les pompiers de la Creuse sont à votre écoute ce matin au 05 55 52 37 38.
a tout changé, quelque chose, et ça me fait avancer. On oublie tous les gens, tous les naufrages, tous les bateaux touchés, coulés. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas. Pour toi, elle dit j'imagine des mots dans le silence. Pour toi, des jours et des nuits où la vie recommence comme ça encore une fois.
France Bleu.
La route en temps réel avec France Bleu Creuse. Merci à vous qui venez de nous appeler pour nous signaler qu'actuellement il y a un sapin sur la voie de gauche à hauteur des radars dans la direction Guéret-Agen. Merci à vous Lydie. Donc soyez prudents, levez le pied si vous abordez le secteur. Un sapin sur la voie de gauche à hauteur des radars dans la direction Guéret-Agen.
France Bleu Creuse. Le dossier du jour.
Le dossier du jour, axé ce matin sur le monoxyde de carbone. Comment se prévenir de ce gaz qui, chaque année, fait des victimes? Nous en parlons avec les pompiers de la Creuse, représentés par l'adjudante-chef Nadia Joly, le pharmacien hors classe Jean-Michel Noailles. La priorité à vos appels au 05 55 52 37 38. Le tout, alors, on a compris tout à l'heure Jean-Michel Noailles ce qui pouvait provoquer ce monoxyde de carbone. Maintenant, Nadia Joly, peut-être nous donner quelques bons conseils pour s'en prévenir, justement, pour que ça ne se produise pas. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, période de chauffe, notamment.
Effectivement. Donc, effectivement, les petits conseils que nous pourrions effectivement vous donner pour tous, afin de limiter effectivement les risques, puisqu'on peut éventuellement peut-être pas complètement les enlever, mais voilà. Avant chaque hiver, ce qu'on peut effectivement faire, c'est de faire vérifier et d'entretenir tout ce qui est nos installations de chauffage, le ramonage de conduite de cheminée, comme nous disait Marie-Joëlle tout à l'heure, et ce, par un professionnel. Donc ça déjà, le faire, on n'attend pas effectivement la période hivernale, mais si on peut le faire un petit peu en amont, c'est déjà beaucoup mieux, et ça évite effectivement que tout le monde se rue vers les professionnels où on a peut-être un délai. Ensuite, ce qu'on pourrait effectivement préconiser, c'est effectivement tous les jours d'aérer son logement, on ouvre un peu les fenêtres, etc. Faire un petit balayage avec de l'air frais qui viendrait de l'extérieur. Ce qui est aussi très important, c'est de maintenir les systèmes de ventilation en bon état. Alors j'entends ceci, c'est effectivement, il fait froid, on a tendance effectivement à obstruer tous les amenées d'air et les sorties d'air par du calfeutrage, par des chiffons, etc. Donc le mieux, c'est on met un petit pull supplémentaire et on évite effectivement
les grilles d'aération.
Voilà, les grilles d'aération. On respecte bien sûr tout ce qui est conseil d'utilisation quand on achète du nouveau matériel. Chose très importante, c'est effectivement tout ce qui est groupe électrogène, on les place à l'extérieur de l'habitation.
Oui, ça c'est très important.
On ne fait pas marcher effectivement un groupe électrogène à l'intérieur de son garage, ou on ne fait pas tourner effectivement un moteur de voiture, porte de garage fermée. Donc ça effectivement, très important. Et on s'en tient effectivement à l'utilisation des appareils destinés à cet usage. C'est-à-dire qu'on ne prend pas un brasero, un barbecue ou une gazinière. Ça arrive. Effectivement, pour se chauffer à l'intérieur de chez soi. Donc, chaque appareil de chauffage a son mode d'utilisation et on le respecte. Le barbecue pour cet été et également le brasero.
Voilà. Tout de suite, nous allons accueillir Brigitte. Bonjour.
Bonjour toute l'équipe. Bonjour tout le monde.
Bienvenue Brigitte. Bonne année. Nous vous écoutons.
Oui, voilà. Je voulais savoir pour les plaques d'isolation en polystyrène au plafond, parce que beaucoup de maisons où j'ai été, il y avait ça au plafond, mais bon, voilà. Jean-Michel, est-ce que c'est autorisé ou pas? Parce que bon, ça brûle pas, ça, mais par contre, ça fait beaucoup de fumée, d'après ce que j'ai entendu, et c'est ce qui est intoxique les gens.
Est-ce que c'est plus dangereux, Jean-Michel Mouet?
Alors la question, c'est s'il y a un incendie, c'est ça?
Oui, tout à fait.
D'accord. Alors, malheureusement, c'est un dérivé d'hydrocarbures et donc les gaz de combustion sont relativement toxiques, voire plus toxiques que des matériaux, on va dire, classiques bois. Malgré tout, vous savez, toutes les fumées sont toxiques. Donc, l'inconvénient qui va se présenter, c'est que c'est un matériau qui va quand même, une fois qu'il sera enflammé, va être source d'une grande quantité d'énergie et qui va plutôt être facilement combustible par rapport à un matériau béton. Donc c'est on va dire quelque chose qui est un peu défavorable en matière d'intoxication. Malheureusement, vous savez, toutes les fumées sont toxiques.
Oui.
La cinétique sera défavorable.
Mais c'est pas interdit de les mettre, parce que j'avais eu entendu, mais bon, entre entendre et puis voilà, ça devait être maintenant un petit peu dispensé, parce que justement c'est dangereux, quoi.
Alors je voulais rebondir effectivement sur mon collègue. Effectivement, ces plaques, pour moi, je les mettrais plus. Effectivement, on a pu entendre certaines fois que ces plaques étaient interdites de les mettre. Comme vous disait mon collègue, beaucoup de potentiel calorifique lors d'un incendie, beaucoup de fumée, etc. Mais aussi, ça va être ces plaques-là vont avoir une réaction au feu où on va avoir quelque chose de goûtant. C'est-à-dire, effectivement, ça va prendre feu et ça va goûter. Ça fait que ça peut éventuellement tomber, puisque ces plaques sont généralement mises au plafond. Ça va tomber sur nous et peut-être, effectivement, nous faire tomber des gouttes inflammables, on va dire, sur soi. Donc voilà, si on peut éviter, effectivement, de mettre ceci, c'était la mode il y a quelques années.
Tout à fait, oui.
Maintenant, voilà, si on peut éviter pour tout ce genre de problèmes, on évite. Voilà.
La solution, la décision est entre vos mains, Brigitte.
Oui, non, mais c'est pas pour moi. C'est voilà, j'ai eu des appartements où beaucoup c'était au plafond.
Effectivement, comme on le disait à l'instant, une époque c'était très à la mode.
Et puis même pour protéger les portes de garage qui sont en fer, mettre de l'isolation comme ça pour le froid, quoi. Voilà.
Bon. Brigitte, les pompiers vous ont apporté une réponse, à vous de voir.
Ok,
bonne journée à vous.
Bonne journée, au revoir.
À bientôt. Bonjour Patricia.
Bonjour, bonne année à tout le monde.
Merci. Bonne année Patricia, bonne année. Nous vous écoutons.
Voilà, moi j'ai, heureusement, j'ai un boîtier pour la fumée. Et un jour, j'étais dehors pour donner à manger aux oiseaux. Et j'ai ouvert une poêle sur le feu.
Oui.
Alors, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe?
Ben, ça brûle.
Pour brûler, ça a brûlé. Et j'ai pu l'éteindre toute seule. J'ai pris un chiffon humide et je l'ai éteint.
Mais dites-moi, est-ce que votre détecteur s'était déclenché?
Oui.
Bon, d'accord.
Oui, je l'ai sur la terrasse et ça fait mal aux yeux, aux oreilles.
D'accord.
Et je voudrais vous demander, quelle différence entre ce boîtier et un boîtier de chaleur?
Jean-Michel Noy, vous avez une idée? Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Ça va aller. C'est quoi un boîtier de chaleur?
Alors c'est un détecteur de c'est un thermomètre, hein, quelque
D'accord.
chose qui va mesurer l'élévation de la température.
D'accord.
Globalement, quand j'ai préparé l'émission, j'ai vu passer ce type de boîtier pour lequel on n'entend plus du tout parler, parce que c'est le détecteur autonome avertisseur de fumée qui est l'appareil qui amène le maximum de sécurité, parce que le détecteur de fumée va alerter la présence de fumée avant que la température augmente augmente de façon importante dans la pièce ou dans les pièces adjacentes. Donc ça va être vraiment l'élément, on va dire, qui sera le plus intéressant à mettre en évidence pour vous dire j'ai un problème dans mon habitation.
D'accord, donc vaut mieux le détecteur de fumée.
Oui.
Voilà, Patricia.
Je voudrais savoir, est-ce que le propriétaire, parce que je suis colocataire, est obligé de mettre, vous savez, pour éteindre le feu.
Un extincteur.
Un extincteur.
Mais oui, dans le couloir.
Non, les propriétaires ne sont pas obligés de vous fournir un extincteur. Néanmoins, votre propriétaire est obligé de vous fournir le DAF. C'est ce qu'on appelait le détecteur de fumée. Ou effectivement, il l'achète et il vous demande à vous de le poser. Maintenant, effectivement, je pense qu'aucun propriétaire ne vous refusera, effectivement, si vous ne savez pas le poser vous-même, effectivement, peut-être donner un petit coup de main pour le mettre au plafond. Donc voilà, donc les extincteurs, non. Par contre, le DAF, effectivement, votre propriétaire est tenu à vous l'avoir fourni, effectivement, depuis peut-être quelques années, 2015, hein, puisqu'on disait que la loi est sortie en 2015.
Vous savez tout maintenant, Patricia.
Oui, la prochaine fois, je ne laisserai pas la poêle sur le feu.
Non, laissez pas la poêle sur le feu aussi, Patricia, si vous y mettez pas du vôtre. Oui, Jean-Michel Noël.
Par contre, la cuisine n'est pas forcément la pièce idéale pour installer le détecteur.
Ben non. Voilà. Ouais.
Parce qu'il sera quand même soumis à pas mal de...
Il faut éviter... le détecteur, il se pose pas ni dans la cuisine, ni la salle de bain, ni le garage. Parce que c'est des endroits où il peut y avoir trop d'humidité, ou de la poussière, ou déjà des fumées de cuisson. Et l'appareil se déclencherait régulièrement, donc...
Déjà, même quand il n'y a rien, il se déclenche.
Et la problématique, c'est qu'effectivement, quand on le pose dans ces différentes pièces, comme disait mon collègue, cuisine, etc., et ben, ce détecteur aura tendance, effectivement, à sonner à chaque fois. Et la première chose que chaque personne va faire, c'est effectivement, on enlève les piles pour arrêter de le faire fonctionner. Donc voilà. Donc on n'a pas vraiment de...
On le met plutôt sur un palier ou...
Voilà, ouais. On n'a pas vraiment de pièces à dire, effectivement.
C'est un détecteur par maison, ça c'est la réglementation. Essentiellement au niveau des cages d'escalier, parce que c'est là où la circulation d'air et donc des fumées se fait très rapidement. Et attention, je fais un petit rappel sur les fumeurs qui s'endort le soir avec la cigarette. Hein, on fait quand même pas mal de décès à cause de ça. Donc pour les fumeurs, on conseille un DAF dans la chambre.
Bonne journée à vous, Patricia. Il vous reste encore du temps. Vous souhaitez poser, échanger avec les pompiers de la Creuse. C'est à ce numéro.
05 55 52 37 38.
Alors je ne bronche pas. Si jamais on me dit que j'ai menti, alors je ne relève pas. Car le jour viendra de répondre de mes actes et je ne me cacherai pas. Oui, le jour viendra de respecter le pacte et lui seul m'entendra. J'en parlerai.
parlerai au diable, Johnny Hallyday.
05 55 52 37 38.
Dans une poignée de secondes, la suite de vos interventions, de vos questions aux pompiers de la Creuse, concernant plus particulièrement ce matin le monoxyde de carbone, comment lutter pour que ça ne se produise pas, mais aussi les détecteurs de fumée. Janine, c'est à vous dans quelques secondes.
Après une enfance malheureuse, Layli a rejoint la France pour s'offrir un avenir qu'elle espère meilleur. Alors qu'un homme est retrouvé mort dans une chambre d'hôtel, l'enquête de police semble remonter jusqu'à elle. Quel secret cette mère de famille aimante et courageuse pourrait-elle bien cacher ? Dans « On la trouvait plutôt jolie », Michel Bussy donne à la vengeance le premier rôle et le dernier mot. Pocket, un livre, une rencontre.
La paire.
On s'embrasse sous le gui. Il paraît que ça porte bonheur pour la nouvelle année.
Mais on est déjà mi-janvier.
Oui, mais c'est encore le nouvel an chez la paire.
Ah bah d'accord.
Eh oui, chez la paire, le nouvel an continue jusqu'au 28 janvier avec le nouvel an des prix bienfaits. Et nous vous offrons moins 30% sur les portes de placard sur mesure. La paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie.
Conditions sur lapaire.fr.
France Bleu Creuse. France Bleu.
Nos invités du jour pour le 10-23, l'adjudante-chef Nadia Joly, préventionniste, le pharmacien hors classe Jean-Michel Noailles, pharmacien et conseiller technique départemental en risque chimique et biologique, et comme tous les matins, c'est la priorité à vos appels et les pompiers sont très très demandés ce matin, c'est plutôt bien. Bonjour Janine.
Bonjour à tous, je vous présente tous mes vœux.
Meilleurs vœux Janine.
Merci. Bon alors ma question, et pourquoi il n'existe pas de témoin ou de détecteur de monoxyde ?
Bah, c'est vrai ça Jean-Michel Noy, pourquoi il n'existe pas de détecteur ?
Mais si, il existe.
Ah, voilà.
Ouais, la réponse est facile, je craignais pire.
On en parle pas.
Donc ça se trouve, vous les trouverez dans les magasins de bricolage à proximité des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée. C'est des boîtiers qui se ressemblent. Même faut faire attention lorsque vous faites un achat parce que c'est très similaire. Il y en a un qui va vous alerter sur la présence de fumée pour vous prévenir d'un incendie et l'autre vous préviendra sur la présence de monoxyde de carbone. Donc c'est des appareils qui se ressemblent. En matière de coût, c'est à peu près pareil. Le principe de fonctionnement est un petit peu différent. Mais voilà, c'est une technologie qui est éprouvée. Donc c'est vraiment quelque chose qui amène un gain de sécurité pour votre habitation si vous avez un appareil de chauffage fonctionnant sur une énergie fossile.
D'accord. Bon, ben on va s'en procurer.
Un complément, adjudante-chef Nadia Joly.
Oui, par contre, Janine, ce qu'on peut vous dire, c'est que les détecteurs de monoxyde de carbone ne sont pas obligatoires. Donc, ils sont également fortement conseillés. Oui. Mais à l'inverse, effectivement, des DAF, où là, on est dans l'obligation d'en mettre un dans notre habitation. Là, les détecteurs de monoxyde de carbone, non. Maintenant, si on peut effectivement avoir les deux, super.
C'est pas plus mal.
Voilà.
Ouais,
et c'est pas plus mal. Voilà, Janine.
Surtout quand on a un chauffage au fioul. Ça se positionne près des appareils de chauffage ou ça se positionne comme les détecteurs de fumée ?
C'est pour vous, Jean-Michel Noailles.
Alors, il faut pas le mettre trop près de la chaudière, parce que la chaudière produit un tout petit peu de monoxyde de carbone. Donc, de façon intempestive, vous pourriez avoir un déclenchement. Ça sera plus à mettre dans le commun, dans le couloir, de façon aussi à vous prévenir. Mais pas dans la pièce immédiate.
Oui, bon. Dans une pièce à côté, dans le sous-sol, par exemple. Si par exemple il est séparé par des murs, par rapport à la chaudière, on peut ou pas ?
Vous le mettez par exemple en haut du couloir qui vous permet d'accéder à cette sous-sol. Ça vous permet de vous prévenir.
Bon, eh ben, écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup à tous.
Bonne journée, Janine. Décidément, c'est un afflux d'appels ce matin. Bonjour, Louis.
Bonjour, Josiane. Bonjour à vos invités. Bonne année à tout le monde.
Bonne année à vous, Louis. Nous vous écoutons.
Oui, alors moi je voudrais savoir, parce que il existe en Autriche, je crois, des détecteurs de fumée qui sont branchés sur le secteur. Moi j'ai des détecteurs de fumée, ils sont branchés, bien sûr, ils ont des piles, mais le problème c'est je ne sais plus quand je l'ai mis et je ne sais plus quelle est la date à laquelle les piles sont encore efficaces.
Alors effectivement, la question est intéressante, Louis. Adjudante-chef Nadia Joly, on met en place un détecteur de fumée, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout d'entretien derrière. Voilà.
Entendu, mais je veux dire, là je regardais tout à l'heure, bon je vois la petite lumière rouge qui s'allume, qui est en fonction, la pile est toujours en fonction, je suppose. Mm-hmm. Mais je ne sais pas quand j'ai posé cette chose et je ne sais pas à quel moment, si le détecteur si la pile ne fonctionne plus, je ne sais pas s'il y a un système qui nous alerte ou pas.
Alors si, comme on vous disait tout à l'heure, effectivement, c'est bien effectivement de positionner ces DAF à l'intérieur de nos maisons, mais effectivement, tout appareil doit avoir un entretien et une vérification, on va dire mensuel et annuel. Donc ce qu'on pourrait vous conseiller, c'est qu'éventuellement, tous les mois, on nettoie un petit peu ces détecteurs de fumée. Ce que je voudrais rappeler également, c'est qu'on ne les peint pas.
Oui, donc,
c'est vrai que ça fait pas terrible, effectivement, au niveau esthétique au niveau de la maison, mais on ne peint pas, effectivement, ces détecteurs, puisqu'ils n'auront plus aucun effet, et ils ne pourront plus détecter la fumée. Donc pas de peinture, on nettoie un petit peu tous les mois, effectivement, ce détecteur. Et tous les mois également, on a un petit bouton test au sein de ces DAF qui nous permettent effectivement de tester ce détecteur de fumée. Il faut savoir que quand les piles seront usées, votre DAF va vous envoyer un signal sonore et ça intempestif. Ça veut dire qu'il va buzzer sans s'arrêter pendant quelques minutes. Ça vous alerte effectivement que les piles sont à changer. Donc ça effectivement, vous l'entendrez facilement.
Oui, à condition d'être présent dans la maison.
Oui, mais il va peut-être pas s'arrêter tout seul.
Ça va le répéter plusieurs fois jusqu'à temps que les piles meurent.
D'accord. Ouais. Ok, jusqu'à temps que les piles soient changées. D'accord. Alors, deuxièmement, je voudrais poser une question. Moi, j'ai un insert, donc je fais le ramonage. Je mets pas des bulles de ramonage parce que ça, je suis pas sûr que les assurances le prennent en compte, malgré ce que disait une précédente auditrice. J'ai donc un insert. J'ai donc un appareil de chauffage d'appoint qui est un poêle à pétrole classique. Donc, lorsqu'on allume le poêle à pétrole, ça sent toujours une certaine odeur, même s'il y a des aromatisés au niveau des pétroles. Mais, je le mets pas très longtemps et ensuite, lorsqu'il s'éteint, je le mets dehors. Donc, il n'y a pas de problème particulier à ce type de chauffage.
Et là, de nouveau, la question intéressante, Jean-Michel Noaille, parce que tous ces chauffages d'appoint, faut bien les surveiller quand même.
Alors, qui dit chauffage d'appoint dit appareil de chauffage qu'on utilise de façon intermittente.
Oui.
Il y a quand même pas mal de situations accidentelles qui sont liées au fait que ces chauffages d'appoint fonctionnent H24 dans des petites pièces, parfois parce que les personnes sont un peu âgées et un petit peu frileuses. Donc, un chauffage d'appoint. Concernant l'odeur, c'est quelque chose qui est assez récurrent, c'est pas forcément un signe de danger particulier, à part que c'est pas très agréable, l'odeur, on va dire, de pétrole ou d'hydrocarbures. Par contre, un chauffage d'appoint, c'est fait vraiment pour fonctionner sur une durée relativement courte et dans un local qui doit être ventilé. Le chauffage d'appoint, le poêle à pétrole, va consommer l'oxygène présent dans la pièce. Donc si c'est une pièce qui est bien isolée parce qu'elle est pas faite, pas constituée pour avoir un poêle à bois à l'intérieur, il y a peu de ventilation. Donc là, ça sera vraiment quelque chose d'important. Consigne générale, c'est 2 heures. Hein. Au-delà de 2 heures, on éteint un appareil de chauffage. Le mettre à l'extérieur vous permet de limiter, on va dire, l'inconfort qui sera lié aux odeurs d'hydrocarbures. À partir du moment où l'appareil est un appareil, on va dire, conforme en matière de normes et qu'il est éteint, il n'y a pas de risque particulier. Autre.
Ok, d'accord. Alors, donc, j'ai une VMC au niveau de la maison. Donc, le problème de la VMC, c'est une VMC avec un flux simple. Donc, c'est-à-dire que tout l'air chaud de la maison, je l'envoie dehors.
Oui.
Alors, je me posais la question récemment, comme il fait pas très chaud dans le secteur, si je ne devais pas arrêter cette VMC.
Alors, la VMC va poser un problème, c'est que déjà, ça va créer une dépression dans l'habitation, donc ça risque de réduire, on va dire, le tirage de votre insert et votre cheminée.
Ouais.
Après, la VMC, quand même, apporte un intérêt, on va dire, plus un intérêt sanitaire général pour l'habitation. Ça permet de réduire, donc, l'accumulation d'humidité dans la pièce. Ça permet aussi de garantir un renouvellement d'air normal. Donc, on va dire, le gain, on va dire, en matière économique, je le comprends. D'un point de vue sanitaire et bilan général, je ne suis pas sûr qu'il soit hyper positif.
Bon, d'accord. Donc, je n'arrête pas la VMC.
Voilà, c'est ça. Merci beaucoup de votre intervention, Louis. Bonne journée à vous.
Bonne journée à vous également. Au revoir.
Eh bien, dites donc, mesdames, messieurs, vous avez bien fait de venir. Un dernier conseil, peut-être, pour refermer, faudrait dire quoi ?
Didier,
Didier, voilà.
Et les signes.
Le mot de la fin.
Les signes d'intoxication au monoxyde.
Ah, t'avais pas bien écouté.
Il n'a pas suivi le début de l'émission.
Ouais, mais je pense que c'est bien de le redire.
Il n'a pas suivi. Jean-Michel Noailles.
Comme je disais au début, les signes sont non spécifiques. Ça sera donc une sensation de fatigue importante, nausée, vomissement, malaise. On peut avoir jusqu'à une perte de connaissance et une faiblesse dans les jambes. On aura vraiment, si on reste dans la pièce, une difficulté à quitter les lieux. Donc vraiment, en cas de doute, en cas de signe collectif, on ouvre portes et fenêtres, on appelle les secours et on quitte les lieux. Tous les habitants de la maison quittent les lieux.
Un grand merci à vous tous et à vous toutes d'être venus nous faire cette piqûre de rappel concernant les dangers du monoxyde de carbone. À très bientôt.
Très bientôt.
Très bientôt. À bientôt, Josiane.
France Bleu Creuse, le dossier du jour, Josiane Perron.
Justement, demain, des maux de tête à répétition pour certains, de vraies migraines pour d'autres. En quoi l'ostéopathie peut soulager toutes ces douleurs ? Vincent, ostéopathe, répondra à toutes vos questions demain matin dès 9h.